Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
quand j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois, j'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue
dans Cours d'honneur.
Saison 4, épisode 16.
Ici deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici Chérine.
Ici Swan.
La Gay Pride approche.
Les couleurs débordent.
Sur les ondes de Cours d'honneur, l'ambiance explose.
Et les talents s'accordent. Gagnant de Sorbonne Live, actu qu'on décortique. Chers auditeurs, vous écoutez la radio.
Mais ouvrez aussi un journal, c'est fantastique. Dis-moi Swan, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
Mais justement Chérine, on y répond sur Cours d'honneur, un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le magazine d'info et de culture avec toujours une pointe d'humour.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
Depuis plus de 10 ans. Pendant une heure, nous vous promettons de parler...
de la presse.
Franchement, ce que vous dites est purement scandaleux, en fait.
Pourquoi, Pascal?
Ben, vous accusez...
Mais je lis la presse.
Mais vous croyez la presse?
Ah,
mais... mais vous êtes le seul en France.
Ah bon? Et vous, non?
On va parler aussi des lesbiennes.
Je suis lesbienne, Marc.
Tout le monde est lesbienne, Marina.
D'accord. C'est parce que ça veut dire lesbienne?
Non, voilà, non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être? Tu connais le mot bicentenaire?
Ouais.
Eh ben, tant mieux pour toi, alors.
Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui font l'amour.
Non, ça n'existe pas.
Ça existe?
Non, ça n'existe
ça
pas.
Ça existe.
D'accord. Alors, qui change les ampoules? Qui dort du meilleur côté du lit? Qui a un meilleur salaire?
De musique aussi.
Quand la musique est bonne, bon, bon, bon. Quand la musique est bonne, bon, bon, bon.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour nous servir, pour vous servir. Bonsoir Jade.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Saturns, du coup la grande gagnante des Sorbonne Lives. Et voilà.
On a extrêmement hâte.
Bonsoir Ellie.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite chronique des bruits, justement, quand on parlait de lesbiennes et de Pride. Moi, je vais vous parler d'un bingo drag qui est plutôt pas mal.
Et oui, c'est notre tradition maintenant depuis 3 mois, Ellie. Et bonsoir à Lavinia également.
Oh, bonsoir les filles. Alors pour cette émission, je vous ai préparé un Sorbonne in Love avec Agathe et Alice. Donc voilà.
Miam, miam, miam.
On va découvrir ça.
Bonsoir Alice.
Salut les filles. Moi, ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud. Les oiseaux transpirent d'à pied. Aujourd'hui, je vais vous poser des. Pas du tout. J'ai une interview sur Sébastien Claïs, qui est professeur des masters. De la communication et de la production de podcasts, voilà.
Conseil éditorial, je crois.
Oui, aussi. Oui.
Fake news.
Et on a également Clara qui est présente ce soir.
Alors moi, je vais rebondir sur le discours de Macron à la Sorbonne lundi pour faire un petit retour dans le temps avec un autre discours emblématique, mais pas assez connu, sur un sujet crucial, l'égalité entre tous, quelle que soit la couleur de peau.
On a hâte d'entendre ça, on a hâte aussi d'entendre Elias, qu'on va entendre mais qu'on ne voit pas, parce que c'est notre correspondant à La Rochelle.
Et oui, RIP. Non, il n'est pas mort.
Heureusement. Sans oublier évidemment notre grand Thomas Pesquet, notre Thomas Bangalter. Et non, c'est encore le fameux, le célèbre, l'unique Thomas Schnell derrière la platine.
Moi ce soir, bonsoir à tous, je vous parle de la seule passion qui vaille dans la vie, la radio bien sûr.
Alors faites comme chez vous, chers auditeurs, alors installez-vous et prenez place du haut de l'amphi.
Dans votre chambre de bonne ou aux toilettes sur le palier.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là c'est vraiment
carte blanche.
Cette semaine, c'est Thomas qui se charge de l'édito. Notre réalisateur, notre rédacteur, notre recruteur en chef, j'en passe, est à la recherche de la radio ultime. Comme il est né au XXe siècle et qu'il écoute toujours la radio sur un vieux poste à pile, Thomas est obsédé des brocantes pour retrouver la trace des ondes perdues.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À cette époque, on pouvait entendre Radio Sorbonne à toutes les fenêtres. Et si l'humble poste qui accompagnait nos nuits ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui rêvais de micro et toi, l'oreille toujours collée à la radio. Aujourd'hui, je vous parle d'une mort à bas bruit, une disparition qui ne sera pas annoncée à l'antenne, la fin du monde des grandes ondes. Depuis 2 ans maintenant, plus aucune radio française n'émet en longues ondes. Une technologie abandonnée par RTL en 2023, France Inter en 2017, Europe 1 en 2019, RMC en 2020. Puisqu'avant l'avènement du numérique, il fallait recourir, oui, à de vraies antennes, avec de vraies ondes. RTL utilisait la fréquence 234 kHz, une fréquence mise en place dans les années 30, capable d'émettre à de très longues distances, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Oui, l'extinction du signal qui émettait depuis les années 30 au Bayt-Weller, c'est au Luxembourg. Extinction du signal d'Europe 1, 183 kHz, émis de Felsberg-Berus dans la Sarre. Moi, un jour, j'ai vu les antennes d'RMC, quatre gigantesques colonnes d'acier peintes en rouge pour être vues des avions, situées sur le plateau de Valensole, dans ma Provence natale. On apercevait ces tiges pointées vers le ciel immense, 305 mètres, sur un plateau qui est déjà à 600 mètres d'altitude. On domine une grande partie de la chaîne des Alpes. On aperçoit l'entrée des gorges du Verdon et même de la Sainte-Victoire. Imaginez qu'on pouvait capter RMC de l'autre côté de la Méditerranée à l'époque. On pouvait capter RTL jusqu'en Angleterre. Aujourd'hui encore, on peut en France capter des ondes venues d'un autre monde. Je parle bien sûr de l'Inde, de la Russie et même de Chine parfois. Sachez que la radio francophone RFI, pour laquelle j'ai travaillé pendant un temps, possède une antenne à Chypre capable d'arroser tout le Proche-Orient. Quand j'ai commencé à travailler pour cette radio dédiée à l'actualité internationale, je faisais les flashs de nuit et on faisait souvent des programmes à destination de l'Afghanistan en plein milieu de la nuit afin que les ondes puissent traverser le désert syrien sans être perturbées par les fortes chaleurs et atteindre in fine les auditeurs de Kaboul, Jalalabad ou encore Kandahar. Alors, si l'histoire des fréquences vous intéresse et des longues ondes vous passionne, n'hésitez pas justement à regarder ce bijou méconnu, un film qui s'appelle Les Grandes Ondes à l'Ouest. C'est un film suisse de 2013, réalisé par Lionel Bayer.
Merci Thomas pour cette édito. Tu nous as fait voyager dans le temps et dans...
Passionné, ouais, passionnant.
Exactement.
On adore.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne.
Il est 18h06 sur Radio Campus Paris.
Dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant,
place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Après la radio, place aux journaux. Fun fact très sérieux qui n'est d'ailleurs pas fun du tout. 2,6 milliards de journaux ont été vendus l'an dernier en France, un chiffre en baisse de 1,8% par rapport à l'année précédente. Certains sont plus connus que d'autres, certes, mais globalement, la consommation de la presse écrite est en baisse. Réseaux sociaux, médias numériques et désintérêt pour l'actualité. Les étudiants de la Sorbonne nous ont donné leur avis sur les raisons de ce déclin.
Je suppose que pour les médias de grande envergure, c'est plutôt en train de se perdre parce qu'on a plus de facilité d'accessibilité via les téléphones et Internet en général. Par contre, je crois plus à de l'information papier, plus underground ou pour de petits collectifs ou des choses comme ça, des actions militantes, des revues d'artistes, des choses comme ça.
Je ne lis pas de presse papier parce que c'est moins pratique, c'est plus rapide sur les réseaux sociaux et comme on a tendance à vouloir faire tout plus rapidement, avoir accès plus facilement aux choses. Ça dépend de ce qu'on garde comme héritage, par exemple, de nos grands-parents.
Personnellement, je lis de temps en temps la presse écrite, notamment Le Monde, mais ça reste assez rare parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a des notifications sur les grands événements, tout ce qui se passe dans la journée. Donc c'est vrai que j'achète de moins en moins de journaux. Donc je pense pas que ça a vraiment un avenir auprès des Français.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on se sent pas un peu menacé en tant que futur journaliste, radio ou presse, mais du coup peut-être pas ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Est-ce que vous lisez la presse ?
Oui, déjà. Ouais.
Pas écrite, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à plus regarder sur Internet directement. Mais donc, je pense que la presse écrite a un avenir qui est un peu incertain, mais je pense qu'il y en aura toujours quand même parce que même comme on l'a entendu, il y en a certains qui ont plus confiance en la presse écrite que la presse digitale, on va dire. Mais c'est vrai que par exemple, moi dans le milieu où je travaillais, qui est le journalisme de mode, c'est de plus en plus numérique aussi. Et par exemple, un des journalistes de mode les plus influents aujourd'hui, c'est Loïc Prigent. Et tout se fait sur YouTube, il fait des reportages, etc. Et tout est digital, donc c'est vrai que c'est assez fascinant de voir... cette transition-là.
Justement, tu parles de mode. Est-ce que, par exemple, si Vogue ou Elle ne font plus d'édition papier, ce ne serait pas un peu triste ?
Si, c'est vrai. Parce que, mais après, c'est différent parce que les magazines de mode, il y a aussi beaucoup de une partie qui est beaucoup consacrée à la photo, donc
après il y a peut-être un enjeu écologique aussi derrière. Enfin, je suis d'accord que la tradition papier, c'est moi aussi j'aimais bien, mais là je pense que enfin moi j'ai aussi le truc de si j'achète un journal après bon, ça s'accumule. J'ai un peu la vision de mon père qui adore Le Monde. Et en fait, il y a les journaux qui s'accumulent. À un moment, tu prends le gros tas et tu vas le mettre à la poubelle. Et bon, ça. Oui, désolé, mais.
C'est bien justement pour le fil de bois. J'ai un peu le problème. Ça fait le poil, quoi.
D'ailleurs, pour Le Monde, il y a souvent des abonnements pour les étudiants qui sont un peu moins chers que ceux pour les habitués. Du coup, on peut en profiter, mais seulement de manière numérique, tu vois. Donc, forcément, ça encourage, ça touche, on va dire, pour des raisons économiques aussi, à ne pas prendre la version papier.
Mais je lis pas beaucoup de presse parce que je suis plutôt mode de réseaux sociaux en termes d'information. Donc je suis d'accord qu'il y a un lien avec l'accès à l'information digitale est plus courte en fait, parce que moi lire un article aujourd'hui, les articles de Le Monde en fait, je les lis quand j'ai vraiment une recherche à faire ou quand il y a vraiment un sujet précis qui m'intéresse. Mais sinon de manière d'info continue, la radio et la presse écrite, vraiment plus trop.
Pareil.
Non, je vais juste dire que justement, c'est ça le drame, c'est que lorsqu'on a une recherche assez fixe à faire, en fait, c'est tellement plus pratique de rechercher directement sur Internet ou de rechercher sur les réseaux sociaux en général, plutôt que de prendre un journal et vérifier si peut-être il y aura l'info qu'on recherche dessus. C'est ça, en fait, qui est triste, c'est qu'on n'a plus du tout ce réflexe-là de se dire tous les jours, je lis mon journal pour avoir l'actualité ou j'écoute la radio. Enfin, ça, la majorité des jeunes ne le font pas.
C'est ça qui se perd, en fait, parce que quand on lit un journal écrit, un papier, on nous force quelque part à absorber l'information devant nous. On ne fait pas une sélection et peut-être même on a de nouvelles surprises et des choses qui font notre culture générale. Alors que quand on fait une sélection déjà dans notre tête, enfin, on n'a pas toutes les informations. Donc forcément, on va trier énormément. Et d'ailleurs, j'ai un fun fact pour vous. C'était dans le podcast de Neurosciences de Huberman. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ouais, mais en tout cas, en fait, quand on lit sur le numérique, sur le téléphone par exemple, en fait, on oublie souvent, je ne sais pas comment ça s'explique, mais on oublie de prendre une grosse inspiration, une double inspiration que normalement on doit souvent prendre pour se calmer. Donc on respire deux fois. Et en fait, quand on le lit sur papier, on le fait automatiquement. Et en fait, il faut se rappeler à chaque fois quand on a un appareil digital de le faire. Je sais pas pourquoi, ça crée une réaction de stress.
Merci de me dire, moi je n'avais pas remarqué.
Pour revenir sur la question des journaux, pourquoi est-ce qu'on lit des journaux? Vous savez quel est le pays au monde où on lit le plus la presse écrite?
Je dirais l'Italie, parce qu'on en voit tout le temps.
L'Italie, d'autres idées comme ça qui dit mieux.
L'Angleterre.
Ouais. Eh bien non, c'est le Japon. C'est au Japon qu'on lit les journaux. Le journal le plus vendu au monde s'appelle le Yomiuri Shimbun. C'est un journal conservateur qui est vendu à 7 millions d'exemplaires. À titre de comparaison, le journal le plus vendu en France, c'est 600 000 exemplaires. Bon, ils sont plus nombreux, certes, mais proportionnellement parlant, ils consomment beaucoup plus la presse que nous parce que c'est un enjeu de société. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire un nouveau modèle en tournant le dos à l'autoritarisme nippon. Et de fait, ils ont beaucoup investi dans les journaux pour avoir des journaux puissants, parce qu'en lisant le journal, en fait, on s'intéresse à la vie des autres, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontrerait pas, qui ne feraient pas partie de notre cercle d'amis, des syndicalistes, des infirmières, des ouvriers, des gens puissants, des gens pauvres, dont l'histoire est racontée dans les journaux. Et grâce à ça, ils ont pu refaire société. Et c'est peut-être ça qu'il nous faudrait en France.
C'est ça qui manque, hein, finalement. C'est ce contact-là entre les gens sans qu'il y en ait. Mais ça, est-ce qu'on ne l'a pas aussi par rapport... Enfin, on l'a avec les réseaux, mais d'une manière négative.
Du coup, je pense que ça vient de l'histoire, mais ça vient aussi de la culture, parce que les Japonais, franchement, ils n'ont pas une sociabilité... Enfin, chaque pays a une sociabilité différente, mais franchement, pour être allé au Japon, il y a plutôt un truc de distance, et je trouve que se faire des amis japonais, c'est plus difficile. Donc peut-être c'est leur moyen, effectivement, aussi de faire société, d'avoir un truc qui regroupe le symbole du pape, enfin, le symbole du journal, le fait de s'informer de cette manière. Donc je pense que c'est lié aux deux, histoire et culture.
Est-ce que Jade, tu veux ajouter quelque chose qu'on n'a pas entendu?
Alors, je trouve ça un peu dommage de dire qu'il n'y a pas d'avenir. Peut-être que l'avenir des journaux papier est en diminution, enfin en tout cas, il n'est pas certain. Mais en tout cas, je trouve que c'est vachement dommage parce que c'est vraiment un monde, le fait de se lever, d'aller acheter son journal. Par exemple, moi, des fois, je regarde le numéro et puis des fois, au kiosque de Malesherbes devant la fac, en fait, je vois une qui me dit, genre, hier, j'ai trouvé une sur Mélenchon, genre, il y avait 4 pages consacrées à Mélenchon et c'était un peu intéressant quand même de lire ce qu'il y avait. Et voilà.
Et la une de Libération aussi aujourd'hui, le pape patrouille. Ouais. Voilà. Pas patrouille, pardon.
Là, c'est Thomas.
Très sympa, très sympa.
Bah, tu l'as acheté au kiosque devant Malesherbes, Thomas ? Parce que là, il nous le montre fièrement.
Et toi, t'as l'habitude ?
Non, mais moi, je me lève le matin, c'est le premier truc que je fais, café, journal.
Ouais, bah, moi, c'est. Enfin, non, j'achète pas tout le temps, mais je regarde les unes, quoi. Et, mais même l'odeur du journal et tout, je trouve ça hyper intéressant. Et ce qui est dommage aussi, c'est que. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je suis beaucoup sur mon écran, j'ai super mal à la tête. Et donc lire l'actualité, s'intéresser vraiment à un sujet précis sur l'actualité sur son téléphone, ça donne mal à la tête quoi. Donc franchement, je suis bien contente d'avoir un support papier qui est pas trop nocif pour la tête et pouvoir passer le reste de ma journée sereine et sans migraine.
C'est exactement ça. Et justement, en parlant d'écran, vous l'avez peut-être découvert sur TikTok ou Transmusical, Mickey est en train de faire son chemin dans le rap et la pop avec une énergie bien à elle. Avec Échec et Mat, extrait de son tout premier EP Graou, elle joue la carte de la sincérité, du style et d'un son qui reste en tête. Juste avant son Olympien à l'automne, on écoute Mickey tout de suite sur Cours d'honneur.
Les garçons ont la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geeks ou des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas que des tamas. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes anti-vomites. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi, je suis échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent tes bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au réel mélancolie, je mets des kids en main même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse cette trace de temps, je suis sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant collant les lettres de motivation. Attends, attends, laisse-moi faire encore un peu de maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat.
C'était Échec et Mat sur Radio Sorbonne Université, une artiste sans filtre, à la voix douce et au style décalé. C'était Mickey. Restez avec nous, chers auditeurs. Place maintenant à l'interview de Sébastien Kleix.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonsoir Sébastien Claes, vous êtes responsable de communication et des relations institutionnelles au CNCPH et professeur associé responsable des masters conseil éditorial de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question. Beaucoup d'observateurs qualifient notre époque de la créateur économie era, l'ère de l'économie des créateurs. Avec la multiplication des supports, nous assistons à la multiplication des contenus. Jusqu'à où ? Notre époque n'est-elle pas obèse de ses contenus ? À quand l'essoufflement ?
Ah, ça c'est une grande, large question. Oui, effectivement, on parlait des journaux papier avec un contenu défini tous les jours, en quelques pages finalement, dans lesquelles on pouvait passer en revue de manière ordonnée l'actualité française, internationale, société, science, etc. Aujourd'hui, les contenus sont éclatés d'abord. Sur différentes plateformes, désordonnées dans le sens où il n'y a pas de classement encyclopédique ou de classement de type rubriquage pour pouvoir y accéder. C'est plus la sérendipité qui joue. En cherchant, on découvre des choses un peu spontanément en ouvrant sa page Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, enfin X, etc. Et puis, ce qui marque aussi notre époque, c'est l'augmentation exponentielle des contenus. Des messages auxquels on est exposé tous les jours. C'est des dizaines de milliers de messages sur X, des centaines de milliers de vidéos, de réel sur Instagram. Et tout ça pose la question aussi de notre attention, de la manière dont on accède à ces contenus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on va trouver? Comment notre attention est-elle traitée? C'est une question qui est posée très souvent, à la fois par les producteurs de contenu, qui cherchent à maximiser, enfin, avoir le plus d'attention possible de la part des auditeurs, des spectateurs ou des personnes qui sont sur les applications. Et puis aussi, naturellement, par les techniciens qui produisent les plateformes. À la fois les informaticiens, mais aussi ce qu'on appelle les UX designers, c'est-à-dire ceux qui font le design des plateformes, qui cherchent à capter le maximum d'attention, ce qui fait que, et je finis là-dessus parce que ça pourrait durer longtemps, ce qui fait que parfois quand on est sur Instagram, on se dit qu'on va regarder un contenu très défini, on va chercher une information précise, et on finit par, un, à ne pas trouver cette information, et deux, par se réveiller 30 minutes plus tard en ayant regardé plein de contenus qu'on n'arrive finalement pas à résumer, quoi.
Justement, vous parlez de l'attention et vous avez organisé un colloque nommé La guerre de l'attention. Mmh. C'était pendant l'époque Covid, c'est ça? Et bah, est-ce que vous pensez que c'est devenu une matière rare en ce moment, l'attention? Est-ce qu'on la demande de partout et du coup, en fait, on n'arrive plus à en donner nulle part vraiment de manière concentrée?
Oui, l'attention, c'était avant c'était le colloque l'année avant le Covid. Mais le Covid a vraiment posé cette question-là de manière renouvelée. Effectivement, l'attention, c'est devenu finalement un bien rare. Votre attention, c'est ce qu'on va rechercher. Alors moi, je me dis, qu'est-ce qu'on recherche effectivement? C'est, comme le disait Patrick Lelay, qui était président de TF1, le temps de cerveau disponible. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est, est-ce que ce temps de cerveau disponible, c'est de l'attention, au sens plein du terme? Alors moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que le fuel des réseaux sociaux, c'est plutôt l'inattention. C'est le rêve éveillé, le moment où on va passer une demi-heure sur Instagram sans se rendre compte que le temps passe. Et sans pouvoir, comme je le disais à l'instant, résumer qu'est-ce qu'on a vu, en quoi ça fait sens pour moi, en quoi c'est important pour moi. Donc finalement, le fuel, c'est plutôt le temps de cerveau, c'est-à-dire le temps où on regarde, mais de manière quasiment inattentive, automatique. Et peut-être qu'un des défis de la communication, c'est de retrouver le sens de l'attention, de faire attention au message, de faire attention à ce que ça signifie, de faire attention à ses pratiques. C'est par exemple le sens de la communication en santé publique, quand on dit changer ses modes de vie ou changer sa consommation. Voilà. Ça, c'est de l'attention au sens plein du terme, c'est-à-dire que ça engage à la fois le présent, mais ça engage aussi son passé, ce qu'on porte, voilà, ses habitudes. Et l'avenir, qu'est-ce qu'on va changer? Comment on va se projeter dans l'avenir, quoi. L'attention au sens plein du terme engage à la fois le présent, le passé et l'avenir.
Le Master 2, Conseil éditorial et gestion des contenus plurimédia à la faculté de lettres de Sorbonne Université, est ouvert aux candidats jusqu'au 17 juin prochain. Mmh. Que viennent y chercher vos étudiants?
Alors effectivement, on a ouvert les candidatures en mars et jusqu'au 17 juin sur e-candidat. Nous, on est un Master 2. Donc c'est un accès direct en Master 2 pour tous les étudiants qui ont déjà un Master 1 en sciences humaines et en sciences sociales de manière générale. Et les étudiants viennent chercher finalement la brique nécessaire de professionnalisation pour travailler dans les métiers de la communication éditoriale. Les métiers de la communication éditoriale, c'est tous les métiers qui tournent autour de la communication et de la production de contenu. Alors on peut interroger ce mot contenu, mais en gros c'est ça. Et les contenus prennent différentes formes. Ça peut être des podcasts, du texte, ça peut être du magazine papier, ça peut être la création d'un site internet, de vidéos, etc. Donc on forme les étudiants à tous ces éléments-là en partant de leurs acquis et de leurs études en sciences humaines et sociales. Et il y a énormément de choses que ces étudiants-là ont déjà en fait, acquis et appris. Une bonne rédaction, ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, de savoir bien écrire, de savoir bien parler. Mais aussi, quand on fait des dissertations ou quand on fait des travaux de mémoire, le traitement de l'information, d'un très grand nombre d'informations très diverses, le classement de l'information, l'apprentissage rapide, la vulgarisation, la médiation, c'est-à-dire savoir retranscrire la pensée des autres, la pensée de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait souvent quand on fait un article, quand on fait un mémoire de recherche, quand on fait une dissertation. Mais c'est ce qu'on peut faire aussi dans le monde professionnel. Et le talent de la synthèse aussi. Donc on part de là. Donc on part en fait d'énormément d'acquis. Et nous, ce qu'on fait, c'est la professionnalisation. Donc, mettre les étudiants dans un contexte où il va y avoir un apprentissage avec des travaux pratiques, souvent, des travaux en groupe, le contact avec des professionnels du monde de la communication. Voilà, tous les enseignants sont des professionnels du monde de la communication. De contact avec des anciens, avec des entreprises. Voilà ce qu'on fait.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans la communication et la production de podcasts, à enseigner à la Sorbonne ? Quel est votre parcours globalement ?
Alors moi, je ne me suis pas spécialisé dans la production de podcasts spécifiquement. Moi, j'ai un parcours assez divers. J'ai fait de la philosophie à la Sorbonne, de la philosophie politique et éthique. Et puis, j'avais la volonté de faire plein de choses. Donc, j'ai fait ce Master 2 conseil éditorial dans lequel j'ai l'honneur d'enseigner aujourd'hui. Donc, je suis aussi un ancien étudiant, finalement. Et j'ai cultivé différentes lignes professionnelles. J'ai travaillé en agence de communication. Et tout en travaillant en agence de communication, j'ai fait des piges pour des magazines, Philosophie Magazine, un excellent magazine qui s'appelle Socialterre, que je vous recommande également. J'ai eu un parcours professionnel, voilà, qui marquait avec des étapes, donc la communication d'abord, puis ensuite travailler dans une chaîne de télévision Public Sénat pour faire de l'information sur cette chaîne. Alors pas du côté de la rédaction, mais du côté de la communication, qui était très intéressant d'ailleurs, ce rapport entre communication et rédaction et information. Et puis j'ai travaillé plusieurs années à l'Espace Éthique Île-de-France sur des questions d'éthique médicale. À faire de la médiation, qu'est-ce que l'éthique médicale, à faire du débat public, de faire discuter des gens sur des questions diverses comme la fin de vie, le numérique en santé, sur de la bioéthique comme l'édition du génome par exemple. Et aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est le débat public, l'organisation de la démocratie. Et c'est pourquoi je travaille au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est une sorte d'assemblée de personnes en situation de handicap ou concernées par le handicap, et qui s'exprime sur des questions d'actualité et sur des questions réglementaires liées au fonctionnement de l'État et à la parution de nouvelles lois. Voilà.
Comment le journalisme adopte-t-il ces nouveaux formes de news et des réseaux sociaux ? Est-ce que vous pensez que le journalisme peut s'adapter et surpasser cela, ou est-ce qu'il va se faire un peu, avaler par la masse de nouvelles formes que cela prend ?
Je pense qu'il y a un changement de, peut-être, c'est pas un très beau mot, mais de consommation d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu justement une consommation. Voilà. Donc il y a à la fois la course à l'actualité et aux news. Moi, ce que je remarque, même sur un site comme Le Monde, par exemple, quand on dit Flash Info ou Actu Flash, la plupart du temps, c'est pas du tout un Flash Info, quoi. C'est une actualité parfois de long terme, mais il y a ce côté un peu sensationnaliste qu'on va chercher. Donc, en réalité, les médias traditionnels, ils ont déjà quitté le format... bien sûr, le format papier existe encore et on l'apprécie, mais ils ont déjà... en fait, acquis de nouveaux réflexes, de nouvelles pratiques et de nouveaux usages. Et ils accompagnent les usages. Il y a des podcasts sur les médias maintenant. Sur France Info, par exemple, maintenant, ils se sont lancés dans la production de petites vidéos, donc de type Instagram, au format Instagram d'ailleurs. Et donc, chaque média s'adapte aux nouveaux usages à sa manière. Mais on ne pourrait pas dire que les médias sont en retard sur ces usages, au contraire.
On aura encore plein de questions à vous poser, malheureusement. Le temps coule, alors vous n'allez pas échapper à la dernière question, la question phare de tous nos invités d'interview. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, la Sorbonne, pour moi, alors pour être honnête, j'ai déjà répondu une fois à cette question. Et je ne vais pas faire la même réponse. Moi, quand je pense à la Sorbonne, je pense à de l'amitié, parce que quand je passe ici, dans la cour d'honneur, dans les couloirs, etc., je pense à tous les amis que je me suis fait ici. Et franchement, quand on fait ses études ici à la Sorbonne, on rencontre beaucoup de gens, et une partie de ces gens avec qui on reste en contact très longtemps, et que je vois encore régulièrement, qui font partie de mes meilleurs amis. Donc voilà, pour moi, cet endroit, il est hanté par mes amis.
Merci beaucoup Sébastien Claes de nous avoir parlé de votre domaine, de vos domaines. On le rappelle, vous êtes responsable de la communication et des relations institutionnelles au CNCPH et professeur associé responsable de master conseil éditorial de la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous avez écrit en 2018 « De disruption à prosommateur, 40 mots-clés pour le monde de demain » aux éditions de Pommier. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.
Merci Sébastien Claes, merci Alice. Après quelques années à Dijon, puis dans la banlieue de Marseille, il part vivre à Versailles, je ne parle pas de vous Sébastien, ne vous inquiétez pas, Versailles, ville de Louis XIV qui a abrité la royauté avant de laisser place à des concepts plus branchés, techno-électro, je parle bien de la fameuse French Touch, qui a fait naître l'un de ses disciples, le fameux Étienne de Crécy. En juillet dernier, il donnait un concert sur le toit de l'aéroport Charles de Gaulle. Ce soir, il pose ses valises parmi les étoiles montantes de la Sorbonne. Tout de suite, You sur Cour d'honneur.
Étienne de Crécy, pionnier de la French Touch, qui continue de faire vibrer les platines des rooftops d'aéroports aux ondes de Cour d'honneur. Restez avec nous, la suite s'annonce tout aussi électrique.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table !
Accrochez-vous à vos perruques, aiguisez vos talons et préparez vos cartes, parce que ce soir, on entre dans un univers où le bingo devient un véritable show digne de Broadway. Ce soir, Ellie nous partage son bon plan mêlant paillettes et alcool gratuit.
Entre les deux, si vous cherchez une façon aussi pétillante que inattendue de finir votre week-end, j'ai le plan parfait. Direction non pas Poitiers dans la Meurthe et Moselle, mais bien le 13e arrondissement de Paris. Plus précisément à la Félicita pour un rendez-vous dominical devenu culte, le bingo drag de Mini Majesté. Oui, vous avez bien entendu du bingo et des drag queens, ensemble, en live. C'est tout simplement fabuleux et je suis sûre que si Catherine Laborde était encore de ce monde, elle s'y rendrait chaque semaine. Chaque dimanche, dans l'après-midi, la cantine géante se transforme en cabaret festif où les cartons de bingo deviennent prétexte à un show décoiffant. À la tête de cette joyeuse messe, païenne, Mini Majesté, icône queer, maîtresse de cérémonie aussi acide que glamour, qui mêle humour, paillettes et gros lots dans une ambiance survoltée, accompagnée chaque semaine d'une nouvelle queen belle, jolie et lesbienne, évidemment.
Je suis lesbienne, Marc.
Tout le monde est lesbienne, Marina.
D'accord, tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne ?
Non, voilà, non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être ? Tu connais le mot bicentenaire ?
Ouais.
Eh ben, tant mieux pour toi, alors.
Entre deux numéros de lip-sync et des cris de bingo hystérique, vous vivrez un moment unique, mi-famille de cœur, mi-kermesse délurée. À la clé, vous pourrez tenter de gagner de l'alcool comme des shots ou des bouteilles de Prosecco et de la nourriture gratuite, de quoi se lever du bon pied le lundi matin.
J'aurais jamais cru que c'était un verre de 2 grammes. J'aurais dit maximum, j'irais 0,6, 0,7. Merci, la prévention ivresse.
Pour ce faire, c'est on ne peut plus simple. Il y a 3 manches. Pour gagner le premier lot, il faut d'abord remplir une tine, c'est-à-dire une ligne horizontale et non verticale, sinon c'est une colonne. Oui, c'est bien. Après cela, il vous faudra remplir une double quine. Donc si vous avez suivi 2 lignes verticales, jusqu'à enfin arriver au carton plein, pour le lot final, et c'est bingo. Malheureusement, si vous vous y rendez, il y a aussi de fortes chances que vous perdiez. Pas parce que vous êtes nul, mais simplement parce que c'est comme ça.
Ah, je suis nul ! Je suis nul !
Mais pas de panique. Nos divas vous auront préparé 3 performances plus iconiques les unes que les autres. Et en plus de ça, vous pouvez venir dans les mains dans les poches puisque c'est totalement gratuit.
Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt ? Oh bah je suis ravie !
Donc au mieux vous gagnez, au pire vous gagnez aussi, mais bon, juste votre seum. En attendant, moi, je vais créer mon propre carton de bingo pour être sûr de gagner tous les cocktails et je vous dis à dimanche prochain.
Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime.
Merci Ellie pour cette chronique des brouilles. Tu m'as donné envie d'aller boire un coup avec
Mais il faut y aller. Il faut absolument y aller. C'est tous les dimanches, c'est génial et on rate aucune date. Et on
c'est gratuit.
Absolument.
Il faut le redire. Oui.
Attends, on s'éclate gratuitement. Attends.
Mais sinon, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
Mais justement, mis à part le bingo, c'est la question à laquelle on répond sur Cours d'honneur.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, la radio étudiante qui fait le tour de la fac et de ses campus.
Et en y faisant le tour, on voit tellement de couples, peut-être un peu trop, qu'on vous les présente juste après reportage Sorbonne in Love de Lavinia.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna
love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde.
Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour.
Ces dernières semaines, Cupidon semble avoir troqué ses flèches pour des fiches de révision. On n'arrête plus de croiser des couples fraîchement formés sur les bancs de la fac. Mais dis, Chérine, peut-être que Cupidon s'est inscrit à la Sorbonne lui aussi. Quel cas, bon courage à lui pour les parcelles qui approchent.
Il m'en parle même pas, Swan. Pensons plutôt à l'amour, car oui, la vignette est allée tendre le micro à un duo tout neuf, mais déjà in love. Agathe et Alice se sont rencontrées sur les bancs d'examen. Toutes deux brillantes, idéalistes et déjà très complices, elles nous racontent l'histoire de leur rencontre.
Je m'appelle Agathe, j'ai 20 ans, en L1 de philosophie, monolicence à la Sorbonne depuis cette année. Donc je m'appelle Alice, j'ai 18 ans, je suis en L1 philosophie allemand à la Sorbonne Université, et du coup bah, je suis là depuis cette année. J'ai involontairement initié l'affaire, ça s'est passé au partiel du premier semestre, c'était l'épreuve de philosophie générale. La composition se faisait dans un amphithéâtre, Alice était assise à l'extrémité du premier rang et moi à l'extrémité du deuxième, ce qui fait que j'étais juste au-dessus d'elle, et sous l'effet du stress, qui par ailleurs n'était pas provoqué par l'épreuve mais davantage par Alice. Sous l'effet du stress, j'ai fait tomber mes affaires. Bah, je l'ai vécu forcément différemment parce que moi j'avais juste quelqu'un qui me faisait chier derrière à me balancer le stylo pendant 4 heures et surtout qu'elle parlait avec des amis donc ça me dérangeait dans une période de concentration. Et à de nombreuses reprises, ce qui fait que notre première interaction c'est parce que j'avais fait tomber ma bouteille d'eau. La deuxième, Alice a ramassé pour moi un surligneur qui était tombé. La troisième, c'était le stylo et ça a duré pendant toute l'épreuve. Elle me soupçonne de lui avoir balancé volontairement. Voilà, mais j'ai le souvenir de Agathe qui est vraiment en train d'attendre sur son siège que je termine ma copie. Conséquentiellement, je l'ai vraiment beaucoup gênée pendant la composition de la dissertation. Alors, j'ai voulu la voir à la fin de l'épreuve pour m'excuser, mais elle m'a adressé un regard de tueur et m'est passée devant, donc je me suis dit bon... après, du coup, je pars. Bon, aucun souvenir d'avoir lancé un regard de tueur à Agathe, mais c'est fort probable. Et finalement, je lui ai envoyé un message parce que j'avais son contact via le groupe de classe. Et après, elle m'a envoyé un peu de nulle part si on voulait prendre un café, et voilà, et j'ai accepté. Bah après, il y a quand même une liberté dans la Sorbonne, je trouve, dans les contacts, dans la facilité des contacts à avoir. Ouais, bah la Sorbonne, elle a joué un gros rôle, mais même l'étude philosophique en elle-même, et le fait qu'on ait des rapprochements dans l'étude.
Être un couple lesbien à la Sorbonne, c'est particulièrement apaisant, parce que c'est véritablement un endroit sûr.
Et finalement, mais même au niveau des élèves, des professeurs, etc., il n'y aura jamais de jugement réel, ce qui est assez agréable, et ce qui est quand même assez rare, même en fonction des lieux où on est.
On sait que sur le campus, on peut avoir des démonstrations d'affection en public, ce qui n'est pas le cas précisément dans l'espace public en général. On a remarqué, et c'est une intuition, que le niveau de méfiance qu'on doit arborer dépend généralement du niveau d'éducation des gens qui nous entourent, raison pour laquelle on n'a absolument pas peur, notamment des discriminations de la part des professeurs ou quoi. C'est public sans être crié sur tous les toits, et encore une fois, Clignancourt, Malesherbes et les autres campus sont pour nous vraiment des endroits sûrs. Je crois que s'il fallait traduire un « je t'aime » en langage philosophique, ça voudrait dire une volonté de prolongement de l'instant présent.
Moi, ce serait plutôt merci à Agathe, parce que je suis pas non plus la personne la plus facile à vivre. Elle est très patiente et très compréhensive, ce qui est pas du tout le cas de tout le monde, et surtout dans ce que je peux être compliqué. Du coup, ça fait du bien.
J'ai l'impression que quand je dis je t'aime à Alice, ça veut dire que je voudrais être toujours avec elle, et que l'ik et nunc, l'instant présent, le ici et maintenant, soit valable dans un avenir même très lointain.
Ah, l'amour à la fac, les regards échangés entre deux amphis. Merci Lavinia pour ce moment doux et sincère. Avec Agathe et Alice, on leur souhaite que ça dure plus longtemps qu'un semestre.
Aujourd'hui, chers auditeurs, nous recevons la gagnante, la winneuse, que dis-je, l'élue de Sorbonne Live, Saturne. Après avoir enflammé la salle du FGO Barbara, cette étoile montante, mélomane plus que lunaire, vient faire vibrer les murs du studio de cours d'honneur et répondre à nos questions.
Étudiante à la Sorbonne, mais aussi rappeuse en mocassin. Bonjour Saturne.
Salut.
Tu as raflé 4 prix au Sorbonne Live, on peut dire que tu fais parler de toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui, on va évidemment parler de toi, mais aussi de musique, d'études, de scènes, bref, de tout ce qui t'inspire. Actuellement, tu es en licence de philosophie et en même temps, tu développes une vraie carrière musicale. Comment tu gères ce double rythme ?
Bah, honnêtement, c'est assez compliqué. Des fois, en tout cas, la période des parcelles qui arrive, c'est un peu plus compliqué. D'habitude, je gère mieux les choses. J'essaye de m'avancer lorsque j'ai des partiels ou des choses comme ça. Mais sinon, en ce moment, en tout cas, c'est plus compliqué d'arriver à gérer les deux, sachant que j'ai des concerts qui arrivent, faut préparer les dates et en même temps, rendre les TD et préparer les partiels. Mais je kiffe, donc c'est le principal.
Trop bien, les concerts, du coup, c'était les prix de Sorbonne Live, c'est ça ?
Oui, exactement.
Trop bien. Alors aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont une passion artistique comme toi, mais ils n'osent pas se lancer. Donc quels ont été tes premiers pas dans la musique et qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le cap ?
Mes amis. Mes amis, j'ai toujours été beaucoup soutenue par que ce soit ma famille ou alors mes amis. Et moi, j'ai commencé, du coup, le projet a commencé en 2023 quand j'ai sorti mon premier EP. Et en fait, après, tout est allé, très vite, entre guillemets, dans le sens où j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré d'autres artistes féminines qui m'ont un peu poussée aussi à faire plus. Et du coup, j'ai pas eu ce truc de complexe à me dire là, ce que je fais, c'est nul, c'est de la merde et je dois m'arrêter, tu vois. J'ai plus eu ce truc où les gens me poussaient toujours à aller de l'avant et à toujours faire plus. Et du coup, je pense que c'est vraiment mon entourage qui m'a vraiment toujours poussée à aller plus loin.
Bien entourée, exactement. C'était justement une de mes questions. En fait, on retrouve beaucoup ta sœur, des gens qui ont l'air de t'être chers dans tes paroles. Du coup, on voulait savoir de qui ou de quoi tu t'inspires pour écrire tes textes.
De beaucoup de choses, hein. Beaucoup ma famille, ce que j'ai vécu, comment je vois le monde et les gens aussi qui m'entourent. Je pense que ça vient un petit peu comme ça. Je vais jamais me dire là je vais me forcer à écrire par exemple sur un sujet précis, mais en tout cas il y a des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et c'est là que du coup je vais les poser sur le papier quand ça vient.
D'accord. Avec 7 titres sur Spotify et près de 3000 auditeurs mensuels, comment tu fais pour capter de l'attention et attirer de nouveaux auditeurs ? Est-ce que tu as une stratégie particulière à nous partager ou ça se fait naturellement ?
Tu veux que je te fasse un tuto ?
Je fais bien un tuto.
Non, alors j'ai pas de méthode phare, on va dire, mais Je pense que c'est vraiment juste le travail et toujours persévérer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des projets et qui ensuite vont lâcher parce que les réseaux sociaux, c'est tellement dur à gérer, tellement dur à faire des vidéos qui fonctionnent et c'est prenant aussi mentalement. Mais je pense que le secret, on va dire, c'est toujours de croire en soi et de toujours aller, toujours se dépasser, toujours travailler, même au moment où tu as l'impression que tu vas baisser les bras, toujours te donner plus. Et le travail, vraiment beaucoup, beaucoup de travail et l'envie et l'espoir, je dirais.
Alors du coup, pour l'avenir, tu te vois plutôt à Galilée ou à la Damso?
Un mélange des deux, hein, je dirais.
T'as la ref pour Galilée ou pas?
Bah Galilée, c'est bah, je connais Galilée.
Saturne et tout.
Ah non.
Les étoiles, ok. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais j'étais fière de ma petite
question. C'est pas grave.
Alors du coup, tu te vois plus philosophe ou...
Bah, je pense que je fais beaucoup de philosophie aussi dans mes textes, mais je me vois plus rappeuse que philosophe, évidemment. Mais je pense que la philo m'aide pour écrire mes textes.
Ouais,
ouais.
C'est complémentaire, c'est ça?
Ouais, je pense, ouais.
Ok. Est-ce que tu as un petit mot pour nos étudiants qui ont du talent, hein, Clara, mais qui sont freinés par la timidité?
Mettez la timidité à la poubelle un petit peu là et prenez un micro et faites ce que vous voulez, chantez, dansez. De toute façon, la vie elle est trop courte pour qu'on reste enfermé dans notre chambre et avoir peur du regard des gens. Et foncez quoi, foncez, on est jeune. Et... Même si on était vieux en fait, foncez dans tous les cas.
Donc, la question phare de cours d'honneur comme tu as pu l'entendre juste avant, que représente la Sorbonne pour toi?
Alors, je ne vais pas formuler la même réponse, mais moi, c'est la fac où j'étudie, quoi.
Ouais,
un j'ai peu. Pas de lien exceptionnel avec la fac, c'est juste vraiment là où je vais le matin, que je sors le soir. Enfin, je ne sors pas à la Sorbonne, mais je fais mes journées là-bas, quoi. Et puis, et puis voilà, quoi. J'étudie là-bas, j'étudie, tout simplement.
Et tu chantes aussi.
Et je chante aussi.
Et tu gagnes aussi.
Et je gagne aussi, des fois, ça m'arrive, c'est vrai.
Génial. Assez parlé, il est temps de t'écouter, Saturne. La scène est à toi.
Hey, 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 Saturne. Prends son temps, elle ne veut pas me le dire. C'est pas le genre de meuf qui raconte sa vie. Mais sur ses joues, je vois des cicatrices. Je me demande alors ce qui pourrait la rendre triste. Ça fait je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Ils se mettent ensemble et puis elle saigne. Son corps ne fait que m'enseigner toute la douleur que peut provoquer d'aimer. Combien de fois elle m'a dit ça et je pars. C'est le bon moment, je ne me retournerai pas. Le lendemain, je la retrouve avec des cocards. Je pense que son mec avait trop bu ce soir-là. Avait trop bu ce soir-là. Je pense que son mec avait trop bu ce soir-là. Elle aura beau mentireux, mentireux, toutes ses échymoses ne se cachent plus. Elle aura beau tirer sur les manches de son pull, mais moi j'ai déjà tout vu. Derrière une femme silencieuse, peureuse, se cache bien souvent tordue. L'espoir est à sa porte, toc, mais elle ne le voit même plus. Elle protège ses enfants, aimerait partir enfin, mais bouger, elle n'ose plus. Ah, comment le placer, la renvoie à sa place. Mais pour lui, tout se passe bien. Hey. Au fond, elle finira comme les autres, oubliés derrière une poche de journal. Et malgré ses résolutions 2025, il continue de lui faire du mal. C'est beau les promesses, ah mais qu'est-ce que c'est beau les promesses. Toutes ces belles paroles qui professent à coups de machette, elle ne le verra même pas venir. Elle a beau chercher son chemin, tu restes au bout du sien. C'est la centième plante dans l'année, putain, ça devient même anodin. Quand elle prendra le calibre, il ne faudra pas venir chialer. Le pauvre homme aimait sa femme, alors il la battait à coups de bouclier violet. Une main sur la détente, le regard froid. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, ça sera juste le bouquet final. L'espoir est à sa porte, toc, mais elle ne le voit même plus. Elle protège ses enfants, aimerait partir enfin, mais bouger, elle n'ose plus. À comment le placer, la renvoie à sa place. Mais pour lui, tout se passe bien. mais pour lui tout se passe bien.
Bravo.
Merci Saturne.
Un flow précis, voix puissante et une présence qu'on n'oublie pas. Merci à toi Saturne d'avoir retourné le studio de Cours d'honneur. On passe maintenant de la scène à la Sorbonne avec Clara et une chronique engagée sur l'initiative Choose Europe for Science.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
Lundi 6 mai 2025, l'initiative Choose Europe for Science, autrement dit choisir l'Europe pour la science menacée en Amérique, est lancée depuis la Sorbonne. On le sait, notre chère université est choisie comme emblème de la recherche académique et entrepreneuriale et continue d'être une véritable scène d'affirmation des libertés. Clara nous propose aujourd'hui d'en découvrir un épisode exemplaire avec un petit retour en arrière.
Et oui, pas plus tard que lundi, le président de la République française et celle de la Commission européenne se sont invités à la Sorbonne pour défendre la recherche universitaire française et européenne.
Je suis très heureux de, si je puis dire, revenir à la Sorbonne.
Ou plutôt...
Plusieurs fois ici, nous avons parlé ensemble d'Europe et de cette Europe, de la liberté, de la prospérité, de l'humanisme, du savoir.
Ou plutôt profiter de la fuite des cerveaux américains.
Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot « diversité ».
Et sinon, on en parle des coupes budgétaires de l'université française ?
À l'échelle de Paris 1, c'est 13 millions de coupes budgétaires qui ont été effectuées.
On a aussi de l'eau qui nous tombait du plafond.
Bref, Monsieur Macron veut parler de diversité ? Eh bien, parlons-en. Le 27 avril 1948, la scène politique fait résonner en Sorbonne l'écho des luttes anti-esclavagistes. En fouillant dans les archives numériques de la Bibliothèque nationale de France, je suis tombée sur les discours contre l'esclavage et voilà que apparaît le mot de la Sorbonne avec celui du président du Conseil de la République, Gaston Monnerville. Dans le cadre du centenaire de l'abolition de l'esclavage, Monnerville rappelle l'émerveillement extérieur suscité par ces conquêtes majeures de la Seconde République que nous devrions davantage considérer. Selon lui, si 1848 n'a pas aux yeux des Français l'auréole de la Grande Révolution, c'est que, rapide comme l'éclair, elle n'a vraiment impressionné que ceux dont le regard restait tourné vers le point de départ. L'étranger contemplait la France. Il fut ébloui. La France, et c'est hélas dans sa nature, dit-il, rabaissa cet élan à des proportions qu'elle n'aurait pas voulu lui voir dépasser. Et ce n'est que par l'écho qu'elle en eut, venant de l'extérieur, qu'elle put, mais trop tard, mesurer combien de beauté se trouvait en puissance dans ces jours de 1848. Et l'orateur profite de cette commémoration pour faire la part belle à Schœlcher et Césaire. Le premier, instigateur du décret d'abolition, signé le 27 avril 1848, et le second, un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude. Et moi, j'en profite donc pour brosser le portrait de cet homme de conviction.
Certains voient en lui l'Obama français.
Né en Guyane en 1897, Gaston Monnerville termine ses études de droit comme boursier du gouvernement avec une thèse sur l'enrichissement sans cause. Barreau de Toulouse, puis barreau de Paris en poche, les succès juridiques le font entrer en politique. Maire de Cayenne, député de Guyane, sous-secrétaire d'État aux colonies, puis président du Sénat, dès 47, Gaston fait preuve d'un fervent engagement républicain, en parole, mais aussi en acte. Il abolit le terrible bagne de Guyane, devient volontaire dans la marine grâce à une proposition de loi concernant les députés de plus de 40 ans, rejoint la résistance dans le mouvement Combat, et après la libération, il crée un fonds d'investissement pour le développement social et économique des Outre-mer. Notre cher Gaston n'a pas seulement œuvré pour le territoire de ses origines, puisque c'est en tant que sénateur du Lot en 1948 qu'il développe des logements coopératifs et consolide la ruralité. Mais ce que la biographie du Sénat n'indique pas, c'est que ce petit-fils d'esclave faillit par deux fois être président de la République. Oui, oui. En 1953, la seconde élection présidentielle de la 4e République doit se faire en 13 tours, par suffrage universel indirect où il faut la majorité absolue du Parlement. Bon courage. Bon, comme vous l'avez deviné, aucun candidat n'émerge et la pratique voudrait que la fonction revienne au président du Sénat. Or, le préjugé de race... Avec ce préjugé de race, les mentalités politiques ne furent pas au rendez-vous. Et 9 ans plus tard, c'est l'attentat du Petit Clamart, mené par l'OAS, désireux de conserver le contrôle français en Algérie, qui aurait pu faire basculer l'histoire politique. Or, De Gaulle est sauf, et les deux hommes continuent ensuite de s'opposer quant à l'équilibre des pouvoirs. L'exécutif doit être renforcé, selon le président de la République.
Le président de la République a dit « J'ai le droit ». Avec fermeté, je réponds « Non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, vous le prenez ».
Enfin voilà, les deux hommes ont quelques points d'opposition. Si les acteurs politiques et citoyens locaux restent marqués par le dévouement de Monnerville, sa figure tente à s'oublier dans l'Hexagone. Or, celui qui a fait en sorte que Victor Schœlcher et Félix Éboué rentrent au Panthéon mérite de les rejoindre, selon l'ancienne députée du Lot. Rendre hommage à la mémoire de Gaston de Monnerville, c'est poursuivre le combat pour une égalité entre territoire et couleur de peau et sacraliser un modèle d'ascension sociale en espérant le faciliter.
Okay. Merci beaucoup Clara pour cette super chronique pavée.
Avec plaisir. Fin un petit peu abruptée, excusez-moi.
On ne s'y attendait pas du tout à la fin. Attends, mais ce n'est toujours pas fini, mais si. Et justement, vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, le temps est bon, le ciel est bleu et dans Cours d'honneur, on aime vous rendre heureux.
On aime aussi vous balader dans votre quartier, dans notre quartier, le 5e, sur la rive gauche où l'on pense.
Plutôt que sur la rive droite où l'on dépense.
Mais aussi vous balader dans notre fac et nos campus.
Et c'est maintenant l'heure de la chronique spéciale correspondance.
Elle nous vient tout droit de La Rochelle avec notre chronique Sorbonne en correspondance, donc.
Tout de suite, aux côtés de notre fameux Elias.
La Rochelle,
La Rochelle,
La Rochelle,
le fameux Elias,
La Rochelle.
Et pour clôturer en beauté cette émission, que diriez-vous d'un petit tour à La Rochelle, là où il n'y a pas de grêle inattendue, là où personne n'est accusé de vouloir influencer l'élection du nouveau pape, là où est notre envoyé spécial, vous raconte toute sa journée, toutes ses aventures rochelaises, et avec une touche historique pour aujourd'hui.
Déjà un mois loin de la Sorbonne et un stage qui avance de plus en plus. Je vais vous épargner une chronique sur la synthèse inorganique d'oxyde mixte de terres rares, à la place je vais plutôt vous parler de l'histoire de La Rochelle. La Rochelle, c'est une belle ville sur la côte atlantique connue pour son vieux port, ses tours et son ambiance marine. Mais derrière ces jolies façades se cache une histoire incroyable pleine de rebondissements. Tout commence il y a très longtemps, au Xe siècle. A l'origine, La Rochelle, c'est un petit village de pêcheurs, et puis au Moyen-Âge, la ville se développe rapidement grâce à son port. Elle vend du sel, du vin et elle accueille des marchands venus de partout. Et surtout en 1199, elle reçoit un document spécial du roi d'Angleterre qui lui donne le droit de se gérer toute seule, une vraie liberté pour l'époque. Les siècles passent et la ville devient de plus en plus importante. Au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, La Rochelle choisit le camp des protestants. À une époque où la majorité des Français sont catholiques, c'est un choix très fort. La ville devient alors un vrai symbole de résistance, presque une petite république indépendante. Mais cette liberté va finir par déranger. En 1627, le roi Louis XIII et son ministre Richelieu décident de reprendre le contrôle. Ils assiègent alors la ville et pendant 13 mois, La Rochelle prend exemple sur Clignancourt et est complètement bloquée. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Les habitants souffrent terriblement, il n'y a plus de nourriture, c'est la famine. Finalement, la ville se rend, c'est un moment très dur, mais qui montre à quel point les Rochelais sont prêts à tout pour défendre leur liberté. Après ce siège, La Rochelle change. Elle perd son indépendance, mais continue de vivre grâce au commerce. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elle devient un port important pour l'échange avec les colonies. C'est aussi à cette époque que la ville participe malheureusement à la traite des esclaves, comme d'autres grands ports français l'ont fait. Une page sombre de son histoire qu'elle n'oublie pas aujourd'hui, et de nombreux lieux de mémoire y sont érigés. Au XIXe siècle, La Rochelle perd un peu d'importance. Le commerce baisse et d'autres villes prennent le relais. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est occupée par les Allemands qui y construisent une base pour leurs sous-marins. La ville ne sera libérée qu'en mai 1945 à la toute fin de la guerre. Mais La Rochelle ne baisse jamais les bras. Dans les années 1970, elle prend une longueur d'avance et devient l'une des premières villes à interdire les voitures dans son centre, à proposer des vélos en libre-service et à se tourner vers l'écologie, une ville verte avant l'heure. Aujourd'hui, La Rochelle est connue pour son respect de l'environnement, son port animé, ses festivals et sa qualité de vie. C'est une ville moderne, tournée vers la mer mais qui n'a jamais oublié son passé. La Rochelle, c'est une ville qui a toujours su garder la tête haute, une ville libre, parfois rebelle, souvent en avance sur son temps, une ville pleine d'histoire et pleine de vie. Par-dessus tout, étudier y fait bon vivre car on compte plus de 14 000 étudiants pour 78 000 habitants.
On remercie Elias pour ce voyage pittoresque dans le temps. C'est malheureusement la fin de Cours d'honneur, épisode 16.
Merci de l'avoir suivi. Merci à nos deux invités, Sébastien Kless et Saturne, qui est toujours avec nous.
Saturne qui a tout déchiré. Vous et pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci à toute l'équipe.
Merci à Elias, le fameux Elias qu'on embrasse de loin.
Voilà. Mais de rien.
Mais Elias, il est parti faire un stage à l'office de tourisme de La Rochelle, en fait, on n'a pas compris. Hein.
Oui, mais on va le remercier à chaque fois, en fait. Merci à Clara aussi.
Avec plaisir.
Et bon anniversaire.
Ah oui, bon anniversaire, c'est l'anniversaire de Clara.
Vas-y. Vas-y, vas-y, hein, j'ai besoin. Attention, tu peux faire un petit match.
Merci.
On va l'exploiter jusqu'au bout.
Merci à Alice et à son interview de Sébastien Kay.
Merci à vous les filles pour votre bonne humeur qui est bimensuelle, tout comme
ouais, d'honneur. Seulement bimensuelle.
Quoi, non mais non, mais je...
Oui, tu t'es mal exprimé, oui.
Voilà. Excusez-moi, pardon. Je vous aime, voilà.
Merci à Jade pour ce super interview.
Oui, c'était trop trop bien. Trop contente d'avoir pu apporter un peu de musique dans Radio Sorbonne aujourd'hui.
On a bien kiffé. Et merci à Lavinia pour ce Sorbonne in Love qui est très mignon, très philosophique, comme toi.
Oui, totalement. Bah,
écoutez, c'est quand même assez surprenant qu'on retrouve tellement de couples en philosophie.
Ouais,
moi, ça me surprend tous les jours.
Oui, finalement.
Parce que c'est pas la licence où on s'attend à trouver
l'amour. Vous pensez beaucoup et pensez à deux, c'est mieux.
Oh, waouh.
Wow.
Incroyable. Donnez-moi une corde. Et merci, Elie.
Merci à vous. J'espère vous voir dimanche. Sinon, je vais pas apprécier. Et si je vous vois pas, à la prochaine.
Et merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
N'oubliez pas, Cours d'honneur passe en mode bimensuel. Un épisode toutes les deux semaines.
Merci également à mon collègue pour nous imprimer le script. Non, je ne suis pas menacée, mais voilà, ça fait plusieurs émissions. Chers auditeurs, vous avez suivi nos ondes.
Mais n'oubliez pas d'ouvrir vos journaux pour capter toutes les infos.
La Gay Pride approche.
La fête se prépare.
Et nous, on est prêts à vous en mettre
plein les oreilles. Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous. On vous aime. Bisous. Ciao.
Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Là, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.